Alors, pour une troisième fois, je vous invite à tourner dans Jude, l'avant-dernière lettre de la Bible. La semaine passée, on a commencé à voir trois points. On en a vu deux des trois. On a vu que la croissance, la maturité spirituelle, en fait, c'est un effort qui est dirigé par l'Évangile. Mais c'est quoi l'Évangile? Oui, c'est l'Évangile de Dieu. Donc, c'est Dieu qui vient vers nous, qui donne son Fils, il meurt à notre place, et puis il ressuscite, et nous donne accès. Et évidemment, c'est un résumé très sommaire. Et c'est un effort alimenté par la foi. Oui, c'est correct, il faut que je saisisse les promesses de Dieu, que je mette ma foi dans ça, et puis que ça crée un sentiment de gratitude, et etc. Mais encore, c'est quoi la foi dans la Bible? C'est un don de Dieu. L'Évangile, c'est Dieu qui vient vers nous, et la foi aussi, dans Éphésiens 2.8, c'est un don de Dieu. Donc, on peut s'attendre nécessairement à ce que Dieu ait un rôle à jouer dans notre croissance spirituelle. Et aujourd'hui, j'aimerais voir notre troisième, regardez ça. Depuis à peu près 20 prédications, c'est la première fois que je choisis un autre effet. Un effort dynamisé par l'Esprit. On va lire dans Jude, verset 20. « Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priez par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » Commençons par quelques réflexions sur le Saint-Esprit. Ensuite de ça, on va faire des réflexions sur la prière et on va essayer de joindre ça ensemble pour regarder c'est quoi la prière par le Saint-Esprit. Oups, je vais aller trop vite. Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans la parole, il y a au moins deux termes qui sont utilisés. En hébreu, c'est le terme, mais là, excusez mon hébreu, ruach, roua, et pneuma en grec. Essentiellement, l'idée, c'est celle du vent. De souffle, ça l'exprime l'énergie, le mouvement, la vie, l'activité. On le voit dans les premiers versets de la Genèse, par exemple. On le voit aussi dans Jean chapitre 3, où ce que l'esprit souffle est comme un vent qui est puissant. Et sans déborder trop dans la doctrine du Saint-Esprit aujourd'hui, parce que c'est pas le but de faire une systématique, mais quand on regarde dans les livres de théologie systématique, on va parler de l'œuvre du Saint-Esprit. Et on va le diviser en catégories. Par exemple, il convainc, il convertit, il glorifie, sanctifie, l'équipe, etc. Mais si on reste dans le domaine de la sanctification, parce qu'en fait, c'est ça qui nous intéresse, la croissance spirituelle, de devenir saint, de devenir semblable à Christ, eh bien, comment qu'il fonctionne? Comment ça marche? Et un des passages importants, c'est celui-ci, dans Jean chapitre 16. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Dans les premières années de ma vie chrétienne, les deux premières années, j'ai eu à faire face à des mouvements charismatiques différents. Et disons qu'un Corinthien, chapitre 12, 13, 14, et ces chapitres-là, je les ai épluchés. Assez, je pense qu'à un moment donné, j'avais appris un Corinthien 12 par cœur. Mais quand on parle de prier par l'Esprit, dans ce genre de mouvement-là, et quand on fait juste mentionner « prier par l'Esprit », il me semble qu'on a une idée là, que ça doit être le parlant en langue. Et là, ben, et on peut prendre ce genre de verset de « prier par l'Esprit » puis faire dire à peu près n'importe quoi. Mais le passage qui est ici en avant de nous est important parce qu'il nous évite deux erreurs. Premièrement, la première erreur, c'est de dissocier ou d'opposer l'Esprit à l'Écriture. Et la deuxième erreur, c'est d'opposer l'Esprit à Christ. Par exemple, une de mes amies à l'époque m'a demandé cette question. Est-ce que tu peux prier avec moi? Ben, pourquoi je ne pourrais pas prier avec toi? Ah, ben moi, c'est parce que je prie par l'Esprit. Ah, évidemment, dans le contexte, c'était parce qu'elle, elle parle en langue. Elle prie en langue, donc, dans une espèce de dialecte incompréhensible. Fait que pour elle, c'était comme ça. Alors moi, j'y ai dit, dans toute ma sagesse, dit, est-ce que tu peux marcher avec moi? Elle dit, pourquoi? Ben moi, je marche par l'Esprit. Alors, on sait que c'est pas ça. Ferguson, il me semble, résume l'idée. Prier par l'Esprit est à la vie de prière ce que marcher par l'Esprit est à la vie chrétienne. Et prier par l'Esprit dans le contexte de Jude et dans le contexte d'Éphésiens, parce que c'est les deux textes qui nous exhortent à prier par l'Esprit, il n'est pas question de prier en langue dans le contexte. Et en fait, ce que Jean nous apprend, puis notez les termes. L'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il me glorifiera. Il prend ce qui est à moi, il vous l'annonce. Quel est le ministère? Un des ministères premiers du Saint-Esprit, c'est de glorifier Jésus-Christ. Dans le contexte, il parle aux douze apôtres, c'est le dernier, une des dernières fois que Jésus va parler du Saint-Esprit. Et dans le contexte, il parle aux douze apôtres. Puis dans les chapitres qui précèdent Jean, bien, il parle qu'il va rappeler ce que Jésus a fait et l'œuvre. Et il y a des choses qui s'en viennent et le Saint-Esprit va vous rappeler ça. Autrement dit, dans un sens, le Saint-Esprit est responsable des vérités proclamées par les apôtres. C'est lui qui les a inspirés dans les Écritures et on croit la Bible justement parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré les apôtres. Kevin DeYoung disait que la Bible est le livre de l'Esprit. C'est l'auteur principal. Mais dans un autre sens, la promesse de Jésus concerne aussi le travail du Saint-Esprit dans le croyant qui glorifie Christ par cette vérité que les disciples allaient voir. Le ministère premier du Saint-Esprit de glorifier Christ est le moyen par lequel le Saint-Esprit travaille, c'est en prenant l'œuvre de Jésus, son ministère, et de l'appliquer dans le croyant, de l'appliquer dans notre cœur. Premièrement pour le salut, mais ensuite de ça pour notre sanctification. Et ça, bien, la parole, la vérité, ce que Jude appelle la foi qui est transmise aux saints, est extrêmement importante. D'ailleurs, c'est rendu clair dans Jean 17:17, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Donc, ça vient combler ce que Jésus est en train de dire. Il va utiliser la parole. Et donc, la mission du Saint-Esprit, ça en est une de service. J.I. Parker, intéressant ce qu'il dit. Le message de l'Esprit pour nous n'est jamais « regardez à moi, écoutez-moi, venez à moi, apprenez à me connaître ». Mais c'est toujours « regardez à lui » en parlant de Jésus. Voyez sa gloire, écoutez-le, écoutez sa parole, allez à lui et ayez la vie. Apprenez à le connaître et à goûter son cadeau de joie et de paix. Le Saint-Esprit nous pousse à connaître Jésus, nous pousse à devenir semblable à Jésus. Mais comment que l'Esprit travaille? Faisons un pas de plus. Par exemple, dans 1 Pierre 1:2, élu selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Donc, l'Esprit semble être l'agent principal de notre sanctification. C'est lui qui est efficace. C'est lui qui travaille dans le croyant pour nous amener comme Christ. Comment il fonctionne? Bien, on voit deux choses. Le Saint-Esprit sanctifie de deux manières dans ce passage-là. Il nous place en Christ pour être nettoyés par le sang de Jésus. Donc, c'est l'Évangile. Jésus qui prend notre place. Puis il nous fait entrer dans ça. On est des élus dans lesquels il nous fait entrer dans ce salut-là. Et deuxièmement, c'est qu'il travaille en nous afin qu'on puisse devenir obéissants. Et là, on commence à rejoindre notre sujet. C'est un effort dirigé par l'Évangile et alimenté par la foi, mais dynamisé par le Saint-Esprit, qui travaille en nous. C'est l'agent qui transforme notre cœur. C'est l'agent qui prend notre cœur et le change. Il transforme. Et toute cette réflexion pour nous amener à penser ceci. Il faut penser à l'Esprit comme lumière. Il va nous conduire, il va mettre en lumière, il va éclairer notre intelligence. Et il faut penser aussi à l'Esprit comme une puissance. C'est une personne, mais qui est extrêmement puissante. Et faisons un pas de plus, réfléchissons un petit peu sur la prière. Et je veux rappeler la logique de Jude dans le texte. Le verset 1 nous dit que l'amour de Dieu nous a appelés. Le verset 1 ajoute que l'amour de Dieu nous garde. Par conséquent, gardez-vous dans l'amour de Dieu. Donc, la méthode de Jude, c'est de nous montrer ce que Dieu fait. Et ensuite de ça, il nous dit, « OK, faites-le. » Mais, Jude dit, et ça, on ne l'a pas vu, que nous devons faire quelque chose. Il y a des efforts là-dedans, ce qu'on a vu la semaine passée. C'est-à-dire, on doit se maintenir dans l'amour de Dieu. Mais le fait que nous sommes gardés dans son amour est possible seulement si Dieu nous garde. Par conséquent, les moyens que nous avons pour nous maintenir dans l'amour de Dieu sont des moyens de grâce. Deux dans le texte. La parole de Dieu et ici la prière. Et pourquoi utiliser moyen de grâce? Ce n'est pas dans le texte. Bien, c'est parce qu'on ne peut pas le faire par nous-mêmes. Prier par l'Esprit, ça laisse déjà sous-entendre qu'il y a quelque chose que l'Esprit fait qu'on ne fait pas nous autres-mêmes. Prier, c'est un moyen de grâce que Dieu utilise pour nous garder dans son amour. La prière, c'est un moyen donné par Dieu pour nous garder dans l'amour de Dieu. La prière, c'est un moyen que Dieu utilise pour qu'on puisse croître dans la vie. Mais ce n'est pas facile, prier. Ma femme a résumé le message la semaine passée. Elle dit, finalement, là, on tournait le coin, puis elle me dit, tu sais, Dieu crée la vie, puis c'est comme, faut que je respire. Fait que, tu sais, c'est comme, je peux pas juste m'asseoir et rien faire. Il faut que je fasse quelque chose. Bien, c'est comme de dire que je ne respirerai pas. Bien, c'est exactement ça le point. Tu sais, oui, il donne la vie, mais il donne le moyen de la soutenir, la vie. Tu sais, il dit, oui, je te crée, mais en même temps, il faut que tu manges. Si tu ne manges pas, bien, désolé, mais tu vas vivre la physique, tu sais, tu vas te dégrader. Et c'est le moyen que Dieu a décidé de soutenir, c'est la parole de Dieu et la prière. La prière, pas le seul moyen, la parole aussi, mais en jumelant les deux, j'aimerais faire quelques réflexions. Mais Piper dit ceci, la prière est la respiration de l'âme. La prière est le moyen de la grâce que Dieu utilise pour nous garder en sécurité et nous amener à persévérer jusqu'à la fin dans la foi. Et si vous me permettez quelques réflexions, essayez de joindre ça ensemble. Il semble qu'il y a deux versets dans la Bible qui font appel directement à prier par l'Esprit. Bien, peut-être trois si on inclut 1 Corinthiens 14, mais le point dans 1 Corinthiens 14 n'est pas cela. Mais l'exhortation à prier par l'Esprit revient dans deux textes, Jude et Éphésiens 6, 18. Alors, tournons dans Éphésiens 6, 18, si on veut comprendre c'est quoi prier par l'Esprit. Et là, il y a toutes les armes du croyant. « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture » au verset 14. Et là, après ça, il en arrive au verset 17. « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, la seule arme qui tue, l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. » Le contexte est intéressant. Dans les deux contextes, il y a une relation claire entre l'Esprit et la parole de Dieu, et la prière. Trois sujets qui sont communs. Prière, parole de Dieu, et... m'en manque un? Saint-Esprit, c'est ça, c'est ça qu'on parle. Ben, c'est parce que sur ma feuille, il n'était pas en ordre, fait que là, je me demandais. Eh oui, je me trompe moi aussi. Et en sachant que l'Esprit utilise la parole de Dieu comme outil puissant entre ses mains, il n'est pas étonnant qu'on les voit jointés ensemble dans les deux textes qui dit « prier par l'Esprit ». Et en quelque part, Jean déduit donc que l'utilisation des mots mêmes de la parole de Dieu dans nos prières équivaut en partie, je tiens à souligner, en partie à prier par le Saint-Esprit. L'utilisation de la parole de Dieu dans nos prières. C'est quoi la relation entre les deux? Il faut penser à l'Esprit comme une personne puissante, avec une très grande puissance, mais il faut penser aussi à l'Esprit comme lumière. Il éclaire et rend clair. Et George Muller dit ceci. Priez de telle sorte que le Saint-Esprit soit la force motrice et le principe directeur. Autrement dit, quand on prie par l'Esprit, c'est l'Esprit qui nous pousse à prier. Sa puissance nous stimule, elle suscite en nous des pensées. Il nous oriente, il nous éclaire. Il intercède pour nous. Il y a des textes qui disent qu'on ne sait même pas quoi demander. Puis le Saint-Esprit, c'est un de ses ministères, c'est d'intercéder parce que vu qu'on ne le sait pas, bien lui, il va faire la job. Et l'utilisation des mots même de Jude, priant par l'Esprit, laisse sous-entendre que c'est quelque chose qu'on ne fait pas par nous-mêmes. C'est donc un moyen de grâce accessible aux croyants, à tous les croyants. Et on prie donc sous la direction de la puissance et sous sa direction. Puissance, direction. Deux mots. Puissance, direction. Deux mots appliqués aussi qu'il faut garder, qui correspondent aux moyens que la parole est utile dans nos vies. Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. À part pour parler de Dieu et de son Esprit et de Jésus-Christ, l'Évangile, la seule place que le mot puissance est utilisé pour l'appliquer à l'Évangile. L'Évangile, c'est une puissance dans les mains de l'Esprit, dans les mains de Dieu qui est là pour nous transformer. Et moi, je vois deux applications très, très, très pratiques et directes et claires. Will veut commencer à construire, et ça semble être apprécié aussi, il faut qu'on découvre ça, à prier en église, mais des prières orientées vers la parole de Dieu. On a une première expérience de ça. Il faut chercher ça en tant qu'Église. Pourquoi? Pourquoi aller dans la parole de Dieu pour après ça prier? C'est l'épée de l'Esprit. Fait qu'en plongeant les regards, en cherchant à l'appliquer, en étant ouvert et en laissant l'Esprit nous diriger à travers sa parole, il va transformer nos vies. Notre Église. Et il faut qu'on ait des temps en Église. En Église, là, pas... Là, il n'y a pas de question de pourcentage d'église. Ce n'est pas 20% puis 30%. Puis ça prend l'église pour prier tout le monde ensemble et à chercher la volonté de Dieu. Et aussi, et là, c'est là qu'on voit que c'est un véritable combat, le faites-vous seul. Ouvrir la parole de Dieu, lire et prier en même temps. Et d'un fond, on ne sait pas quoi lire. T'sais, c'est sûr que si vous faites une lecture de la Bible systématique, vous êtes dans le livre du Lévitique, et là, vous êtes en train, il a pris les rognons, puis il a pris... Mais encore là, de prier le Seigneur pour qu'il nous dirige, et il y a des choses, s'il l'a maintenu, gardé dans sa parole, c'est parce qu'on a des choses à apprendre. Et si j'ai des choses à apprendre, ben, quand que je vois ça, ben, je me dis que, Seigneur, éclaire-moi. Est-ce qu'on lit... Ben, premièrement, est-ce qu'on lit? Et deuxièmement, est-ce qu'on prie? Et troisièmement, est-ce qu'on prie en lisant la parole? La deuxième réflexion. La mission de l'Esprit est que l'on devienne à l'image de Christ. Il me semble qu'il y a un passage qui résume ça. 2 Corinthiens 3:18. Nous tous qui le visage dévoilé, ici on voit l'Esprit qui est comme une lumière, il dévoile. Il rend clair, il enlève le voile. Nous reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés Ici, on voit l'Esprit qui est comme une puissance. C'est lui qui nous transforme en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est l'Esprit qui travaille en nous. Et là, le verset qui précède celui-là, il dit, « Lorsqu'on regarde vers le Seigneur, le voile est enlevé. » Et là, on a tout ce bel genre de phrases-là qu'on a toutes. Là, et puis on ne veut pas que ça devienne des clichés, tu sais, hein, dirigé par l'Évangile, puis un effort alimenté par la foi, puis dynamisé par l'Esprit. Tu sais, ouais, c'est beau, là. Mais est-ce que ça m'aide? Puis on a tout ce même genre de phrases-là. Tu sais, puis on pose toutes plein de questions complètement inutiles, tu sais, dans les sports, par exemple. T'sais, on prend les sports, et puis à la fin d'une game de hockey, tu sais, on voit le journaliste qui est là, puis à quoi t'as pensé quand t'as fait ton but gagnant? Puis tu sais, à quoi j'ai pensé? Je checkais le but, puis je voulais scorer. Puis c'est complètement inutile comme question. Je dis, en 2008, je faisais une compétition au judo, puis je me rappelle, écoute, le gars s'en vient, puis là, il faut qu'on pogne, qu'on se tire à terre. Moi, ma stratégie est simple, je le pogne, je le plante, c'est clair. Mais là, lui, je le vois, il s'en vient, main sur l'épaule, puis là, j'ai main encore sur l'épaule, puis trois fois, merde, t'as pas, la troisième fois, tu vas-tu lâcher mon épaule? Et t'as vu mon épaule, prends-la. Et ma main, paf! Je t'allais planter, tiens, merci. Tout le monde en riait. Et là, il s'en vient me voir, et là, j'ai posé la question. Quoi, t'as pensé? Ouais, je pensais à Dostoïevski, littérature russe. Je pensais à. Non, on ne s'attend pas à ça, tu sais. On ne s'attend pas à ce qu'ils nous disent des choses comme ça, tu sais. Mais dans la vie chrétienne, on a tout notre petit jargon aussi, là, tu sais. Des phrases qui semblent bien spirituelles. Regarde à Jésus. OK, comment je fais ça? Mets les regards sur Jésus. Remets tout entre les mains de Dieu. Oui. C'est biblique. Tu n'es pas saisi par l'Évangile. Ouais, mais ça ne m'aide pas. Dirigé par l'Évangile, alimenté par la foi, dynamisé par le Saint-Esprit. Je plonge les regards dans l'Évangile et l'Esprit crée une dynamique dans laquelle je veux mettre ma foi dans ces promesses-là et lui va créer un sentiment de gratitude. Et donc, tout mon counseling, mes bien pensées doivent amener la personne à plonger les regards dans cet évangile-là. Et Dieu va faire le reste. Oui, c'est un effort, c'est un combat de lutter, de prier, de lire. Et de. La vie chrétienne, c'est un combat. Mais ça change nos vies. Il est le sanctificateur, c'est lui la puissance. Et quand on est plongé dans cette gratitude qui est produite par l'évangile, là je peux me lever puis faire quelque chose pour le Seigneur. Les promesses y agissent, une puissance de Dieu dans la vie du croyant. Et troisièmement, remarquez qu'il y a deux fois dans le même verset l'utilisation de la sainteté. Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Et foi ici, on l'a vu, ça réfère à l'Écriture, ce qui est transmis par les saints, par les apôtres, une fois pour toutes. Priez par le Saint-Esprit. Pas juste l'Esprit, le Saint-Esprit. Et la parole est utile pour trois choses. Dans notre texte, elle édifie, elle est sainte, donc elle travaille pour notre sanctification, mais aussi c'est qu'elle est utile au Saint-Esprit, qui lui est le sanctificateur, donc il n'est pas étonnant qu'il utilise la parole. R.C. Sproul, je pense que je l'ai déjà dit, mais le mot « saint » dans son nom attire l'attention sur le point central de son œuvre dans le plan de Dieu de la rédemption. Le Saint-Esprit est le sanctificateur. C'est lui qui applique l'œuvre de Christ à notre vie, en œuvrant en nous pour nous rendre pleinement conformes à l'image de Christ. Et encore une fois, priez de telle sorte que le Saint-Esprit soit la force motrice et le principe directeur. Je veux mettre tout dans mes prières à disposition pour que le Saint-Esprit puisse déployer sa puissance et me diriger. Prier par l'Esprit n'est pas juste de prier avec la parole. Évidemment, il y a tout un ministère d'intercession, de puissance, de direction et d'illumination. Mais c'est quoi prier par l'Esprit? On regarde notre passage d'après. « Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. » Premièrement, la prière édifie. Jude utilise la métaphore d'un bâtiment, « édifiez-vous ». Donc, on peut le voir en termes de fondement, mais aussi en termes de processus. L'Évangile, c'est notre fondement, mais en même temps, on peut le voir en termes de processus. Édifiez-vous sur et priant. Donc, il y a une espèce de... Eh non, on ne devient pas à l'image de Christ du jour au lendemain. Il a choisi de le faire sur toute notre vie. Donc, il y a un processus là-dedans. Et la prière par le Saint-Esprit est donc un moyen de s'édifier, c'est-à-dire de se maintenir dans l'amour de Dieu. Dans Éphésiens, le contexte qu'il veut nous dire, ce qu'on a vu tantôt, c'est qu'il demande la volonté de Dieu et l'aide dans le combat spirituel. Quand que Paul parle de prier par le Saint-Esprit, il est en train de demander la direction, la puissance, la capacité d'utiliser toutes les armes de Dieu, mais aussi c'est que nous sommes dans un combat spirituel. Et Jude, la prière par l'Esprit, n'est pas vraiment différent. Il y a un combat dans cette église ou les églises dans lesquelles Jude écrit. Il y a des divisions, des choses qui se produisent. Et il est en train de dire, faut que vous vous mainteniez dans l'amour de Dieu. Et les façons, c'est un, ayez des pensées centrées sur l'Évangile. Deux, priez. Qu'est-ce donc que la prière, en fin de compte? Une expression de ma faiblesse. C'est une nécessité. Je ne peux pas répondre à mes propres besoins. Qu'est-ce que je fais? Je me tourne vers Dieu. Dans un sens, c'est une expression de ma faiblesse. Mais aussi, l'amour de Dieu ne peut pas être soutenu sans une relation avec Dieu. Et la prière sert à maintenir, à soutenir cette relation d'amour avec Dieu. Nous prions, on cherche la volonté de Dieu, parce qu'on reconnaît que je ne peux pas répondre à mes requêtes. Deuxièmement, la prière nous soutient. Jude est une lettre qui concerne la persévérance du croyant. Dans le contexte, nous devons nous édifier sur la foi, sur notre foi, sur la grâce de Dieu. Et ça, c'est un contraste complet avec les faux docteurs dans l'Église qui, eux, dans les premiers versets, versets 4, 5 et suivants, ils nous disent qu'eux, ils déforment la grâce de Dieu pour en faire une liberté qui est malsaine. Mais vous n'agirez pas comme ça. Eux créent des divisions, ils sont immoraux, ils font toutes sortes de choses qui nous autres, on ne veut pas voir. Mais vous n'agirez pas de cette façon-là. Et encore, dans les termes de Jude, verset 19, « Les voilà les fauteurs de division, les êtres charnels dépourvus de l'Esprit. Mais vous allez prier par l'Esprit. Vous allez rechercher la puissance et la direction de l'Esprit. Vous n'êtes pas comme ça. Eux ne l'ont pas. » Vous allez être dirigé, contrôlé par le Saint-Esprit, travailler dans la puissance de l'Esprit sur le fondement de l'Évangile dans lequel nous mettons notre foi. Et troisièmement, la prière nous aide dans le combat. Jude, Éphésiens, un autre passage intéressant en lien avec la prière. Luc 21, 34 à 36. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Veillez, priez donc en tout temps, verset 36, afin d'échapper à toutes ces choses qui vont arriver. Prenez garde, veillez, deux exhortations. En fait, l'ordre c'est veillez, priez en tout temps. Le moyen de veiller, c'est de prier. Comment rester alerte? Comment rester vigilant, en sécurité? Jésus nous dit, c'est par notre vie de prière. Et il ne parle pas des petites priettes là, occasionnelles là, qu'on fait à l'heure des repas. Là. Si votre vie de prière est limitée à celle que vous faites au repas, alors pas bien. Quand compris, évidemment. Mais ça nous parle d'une vie de prière, ça nous parle d'une attitude beaucoup plus que de mots. Je peux faire plein de choses tout en étant conscient de Dieu. Tu sais, prier en tout temps, c'est pas un arrêt physique à genoux dans un coin à prier en tout temps. Tu sais, il faut que je mange, je vienne aux besoins de ma famille. Je peux faire toutes ces choses-là en ayant une pensée qui est tournée vers Dieu. Et finalement, l'exhortation de Jésus et de Jude, c'est en fin de compte d'où va venir la force d'échapper à un courant de pensée qui est toujours plus sans Dieu. D'où va venir la force d'échapper à un amour dans l'Église qui va devenir de plus en plus froid? D'où va venir la force d'échapper à la persécution? D'où va venir la force de surmonter les épreuves quand que tout semble dire autour de moi que je suis en train de croire pour rien? Ben Jésus, puis Jude, puis Paul nous dit, ça va venir de votre vie de prière. La meilleure chose qu'on peut faire dans notre Église, c'est prier ensemble. Et une chance qu'on n'a pas un compteur en haut, tu sais, ils font ça à la bourse, tu sais, un compteur, ou tu sais, juste ici en avant, là. Et là, pendant que je parle, on voit, ah, t'as une prière qui s'ajoute, deux, trois, quatre, tu sais. Et posons-nous la question en Église, comment qu'on en fait des prières en Église? On peut critiquer bien des choses de plusieurs églises, mais il y a des églises qui réussissent à avoir le même nombre de personnes à une soirée de prière en plein milieu de la semaine que le dimanche matin. J'en connais une. Ah, on peut critiquer plein de choses de cette église-là, probablement. Mais elles sont quand même tout le temps là, tout le monde presque, à très peu de personnes près, pour prier ensemble en église, pour intercéder pour les malades, intercéder pour notre église, intercéder pour d'autres églises, intercéder pour des ministères, intercéder pour... C'est un combat. C'est ça la vie, là. C'est ça la vraie vie. C'est un combat. Et on va être gardé dans ce combat par notre vie de prière. Et conclusion. J'aimerais terminer par un témoignage raconté par Piper, mais la première fois que j'ai entendu ce témoignage-là, ça m'a frappé. De Bruce Wilkinson. Ça m'a frappé quand je l'ai lu parce que Wilkinson, ben, je le connais un petit peu à travers certains écrits, mais il racontait qu'il y a une prédication que ben, Wilkinson qui l'a frappé de Richard Sohm. Et il a écouté, tu sais, Sohm, c'est un espèce de prédicateur qui prend des textes très obscurs dans la Bible et là, il te fait des messages épouvantables. Il trouve des perles dans ce qui semble être complètement inaccessible, le commun des mortels. Et là, il a pris un texte et là, il a prêché là-dessus, sur Jabez. Qui connaît Jabez? En fait, il y a deux versets dans la Bible qui parlent de cet homme. En plein milieu du livre des Chroniques, en plein milieu d'une généalogie. Et qu'est-ce... Mettons, Dieu vous dit, « Hey gars, fille, je parle aux deux genres, je te donne le droit d'avoir deux versets dans la Bible qui parlent de toi. Qu'est-ce que tu aimerais avoir écrit? » Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jabez invoqua le nom de Dieu, le Dieu d'Israël, en disant, « Si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et là, dans la Bible, il y a trois petits points. Et là, il manque un petit bout. Il faut que je tourne finalement. Il faut que j'ai ça. Je m'excuse du délai, il manque un petit bout. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. deux versets. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a fait une espèce de longue prière. Dieu dit qu'il était plus considéré que tous ses frères, puis il l'a exaucé. Et voici ce que Wilkinson a dit. J'ai tiré la chaise jaune du comptoir et je me penchais sur ma Bible. J'ai lu cette prière à plusieurs reprises. Je cherchais de tout mon cœur la volonté de Dieu pour quelqu'un d'aussi ordinaire que moi. Le lendemain matin, j'ai prié, la prière de Jabet, mot pour mot. Le lendemain, et ainsi de suite. 30 ans plus tard, je n'ai jamais arrêté. Pendant 30 ans, il a prié une prière d'une personne qui a deux versets dans la Bible. Moi, ça m'a... À quoi ressemble ma vie de prière? Première question que je me suis posée. Et comprenez que je ne suis pas ici pour vous faire la morale. J'ai vraiment pas... C'est un des plus durs combats pour moi, c'est la vie de prière. Je cherche la volonté de Dieu pareil comme vous. Mais quelle est la prière que vous avez le plus souvent fait? C'est quoi la prière que j'ai le plus fait dans ma vie? C'est quoi la prière que... Tu sais, 30 ans de temps, une prière d'un homme ordinaire dans le livre des Chroniques qui a complètement bouleversé sa vie. Puis Wilkinson, il a eu un ministère assez puissant. La deuxième question. Ma première question, c'est quoi notre vie de prière? Mettons qu'on l'applique à l'Église. OK? Vous savez, je ne sauve pas du problème de l'autruche. Mais mettons qu'on l'applique à l'Église, tu sais, puis on prend les Églises des Frères. Les Églises des Frères souffrent d'un syndrome qui s'appelle la priite aiguë. Il y a un problème, on va prier là-dessus. Mais il semble avoir très peu d'efforts qui viennent avec ça, tu sais. Et là, ben, on voit on a besoin pour quelque chose, là, des repas. On a besoin pour du linge. On a besoin pour te. Hey, mon frère, je vais prier là-dessus. Non, j'ai besoin de linge. Et j'ai vu des personnes, 3, 4, 5 mois plus tard, j'ai eu la conviction, je vais faire un spaghetti. Non, c'est que c'est ça, tu sais. Le Seigneur t'a mis à cœur de prier des choses, à un moment donné, il faut qu'on les mette en pratique, là. Tu sais, oui, mais il y a des besoins, je veux le combler, tu as décidé de prier pour ça, c'est parce que tu l'as à cœur. Fait qu'à un moment donné, il faut mettre des pattes, tu sais. Hey, moi, je me suis rendu compte que ma prière, dans les derniers mois j'ai fait le plus, c'est pour l'unité de l'Église. C'est pas une cachette. Ah, moi, je prie pour l'unité de l'Église. Qu'est-ce que tu as fait? Non, mais c'est une bonne question. T'sais, à un moment donné, il faut se l'appliquer à nous autres-mêmes. Mais en même temps, ma deuxième question, quelle portion des Écritures a captivé mon imagination comme Wilkinson, puis qui a produit en moi une telle force, une passion pour Dieu, que ça a changé ma vie? Y a-t-il un texte? Puis je lisais des témoignages, là, puis on lit les témoignages des grands hommes de Dieu. Il y a souvent un verset, un passage que le Saint-Esprit a éclairé la personne. Et là, il y a tout un jumelage des dons de la personne. Et puis là, il y a tout ça. Et là, ils ont des ministères. Puis tu te dis, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Une des premières symptômes d'un ministère efficace que je vois quand je regarde des hommes de Dieu, c'est qu'ils ont trouvé une perle dans les Écritures qui les a propulsés complètement dans le ministère. Et là, je ne veux pas juste parler de John Piper, Carson, Wilkinson, puis tu sais, les autres. Je parle des mères au foyer, des fois, qui ont été complètement transformées par un verset que le Saint-Esprit a dit. Ils ont eu des ministères efficaces. On parle de missionnaires, on parle de professeurs de l'école du dimanche. Et là, tu te dis, voyons, pourquoi tu fais ça? Puis là, souvent, il y a un verset qui vient. Telle chose. Ah ouais, tabarouette, tu te donnes pour les enfants. Pourquoi? C'est quoi? Jour après jour, que ce verset-là vous propulse et que vous demandez à Dieu de vous utiliser pour ça. Et là, Ça, quand ça se produit, mes amis, ben, on se lève de notre chaise, puis là, on commence à se rendre compte c'est quoi des efforts. Mais on se rend compte de deux choses, que la vie chrétienne, c'est un effort, mais qu'en même temps, c'est que c'est la grâce de Dieu qui travaille en nous. Deux choses que j'ai voulu faire ressortir dans les deux semaines, la semaine passée, cette semaine. Oui, c'est un effort, mais en même temps, c'est la grâce de Dieu qui travaille en nous, qui nous propulse dans cette marche chrétienne. Pourquoi? Parce que je ne suis pas tout seul. C'est Dieu qui travaille en nous. C'est un combat. Ça prend de la persévérance. Ça nous parle de maturité, de croissance, de se maintenir dans l'amour de Dieu. Oui, ça demande un effort, mais ça demande à ce que la grâce de Dieu travaille en nous. En fin de compte, c'est un effort qui est dirigé par l'Évangile, qui est alimenté par la foi, mais aussi cet effort-là, il est dynamisé puis il est soutenu par le travail du Saint-Esprit. Et je termine. La prière est un moyen de grâce que Dieu utilise pour nous soutenir et nous garder dans son amour. Vivons l'Évangile en Église comme un seul corps et commençons nos réflexions. Et là, si vous avez extranet cette semaine, mais commençons nos réflexions par une réflexion basée sur l'Évangile, soutenue par la prière. Parce que des idées personnelles, on en a beaucoup. La parole de Dieu, soutenue par la prière, qui nous pousse dans ce combat par amour pour l'Évangile, par amour pour Jésus. On va prier. Oui, Seigneur Dieu, mes mots sont très faibles pour exprimer la grandeur du ministère de l'Esprit. Tu veux qu'on soit dirigé, poussé par l'Esprit. Mais souvent, on l'entrave, on l'attriste, on ne lui donne pas la place. Et Seigneur, prends la place. Travaille en nous pour qu'on puisse sentir qu'on doit te laisser des choses dans nos propres vies, Seigneur. Et Seigneur, s'il y a quelqu'un ici dans la salle qui s'est senti accusé par mes paroles, pardonne-moi, Père, parce que je suis un mauvais communicateur. Mais en même temps, utilise ça pour transformer ma vie, sa vie, la vie de l'Église. Passionne-nous pour l'Évangile de sorte qu'on va être complètement transformé. Et comme Wilkinson, à 30 ans, a prié la même prière jour après jour, Seigneur, qu'on puisse être passionné jour après jour par l'Évangile, par ta parole, qu'on puisse dépendre de toi complètement à travers la prière, que notre Église puisse être efficace, qu'on puisse produire des disciples matures, qu'on puisse produire une génération qui vont être enthousiastes, utiles et agréables pour toi, Seigneur. À ta gloire. Amen.